Voilà.
C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons du label Indication géographique ou Indication géographique protégée. Ça dépend si on est en Afrique ou en Europe. En tout cas, on en parle aujourd'hui dans C'est pas du vent. C'est un moyen pour permettre aux agriculteurs familiaux qui produisent tout de même 80% de l'alimentation mondiale de défendre leur production dans une économie globalisée. Aurélie Amim-Richard, je rappelle que vous êtes chef de projet Indication géographique à l'Agence française de développement. Alors, combien existe-t-il de produits labellisés Indication géographique dans le monde aujourd'hui?
Alors c'est très difficile à quantifier exactement, mais on peut estimer qu'il y a entre 9 et 10 000 indications géographiques dans le monde aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, il y en a un peu plus de 3 000 aujourd'hui dans l'Union européenne, donc plus d'un tiers. Et la majeure partie des indications géographiques sont plutôt aujourd'hui dans les pays du Nord, de l'OCDE. Depuis les années 2000, les IG se développent relativement bien en Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde. L'Inde qui a plus de 200 IG aujourd'hui. Au niveau du continent africain, il existe quelques IG au Maroc, en Tunisie, donc en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, en revanche, au travers d'un projet que nous avons mis en place avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, nous avons pu faire reconnaître les trois premières indications géographiques en Afrique.
Oui, donc on a entendu dans la première partie de l'émission un reportage sur le miel d'Oku, on va en entendre un bientôt, et puis il y a aussi en Guinée un café, je crois.
C'est ça, le café Ziamama Sainta en Guinée-Conakry.
Mais donc il y a un vrai problème de déséquilibre nord-sud, alors que ce sont justement les producteurs des pays du sud qui ont le plus besoin de défendre leur production sur le marché mondial aujourd'hui.
Oui, et de l'accompagnement de ces pays du sud à la mise en place d'indications géographiques, c'est véritablement un accompagnement aussi de ces filières et de ces acteurs économiques dans les pays du Sud à mieux s'insérer dans le commerce local et international pour pouvoir bénéficier de cette mondialisation dont ils sont souvent les premières victimes.
Oui, même localement. Alors ce label, c'est vrai, c'est un véritable outil de développement agricole, c'est un moyen de différencier sa production et de se faire une place, donc non seulement sur le marché local, mais aussi international, on l'a dit. Et le poivre de Prenja, produit dans la région du littoral au Cameroun, est l'un des trois premiers produits africains à avoir reçu en 2013 ce label, Indication géographique, mis en place par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cerise Maréchaux est allée à la rencontre des acteurs de la filière à Prenja, dans le département de Mungo, à l'est du Cameroun.
Bonjour.
Nous sommes pleins dans la cueillette.
La cueillette du poivre blanc?
Oui.
Elle est solide, votre échelle en bambou?
Ça, c'est celle bambou de Chine. Quand même, nous sommes rapides. Par jour, quelqu'un peut faire même 100 kilos comme ça, 120 kilos.
Par jour?
Oui, par jour.
Vous vous appelez comment?
Oumarou. Moi, je suis venu de l'Ouest.
Donc vous avez migré pour travailler ici, dans l'agriculture?
Oui, voici troisième année qu'on est dans les poivres.
Attention!
Vite-toi, hein. Tu peux tomber sur toi.
Tombez pas! Bonne chance alors.
Oui, madame.
Il faut qu'il y ait les graines bien mûres. Hein. Allez, bon courage. Hein.
On récupère les graines bien en maturité, mais qui n'ont pas de graines jaunes ou rouges. Il doit garder sa peau. Elle doit perdre sa peau pendant la transformation. Je m'appelle Takungu Mandré, chef de production de plantations Motomo.
Où sommes-nous là exactement? Vous
pouvez nous sommes dans les plantations Motomo, au centre de Prenja, le département du Mungo et la province du littoral.
Ces plantations Motomo, c'est une propriété de combien d'hectares?
En poivre, on est à 30 hectares. Monsieur Motomo a sollicité qu'on puisse multiplier plus de plantations de poivre que les autres cultures.
Il a voulu privilégier le poivre sur la banane ou l'ananas, par exemple.
Oui, il a fait les calculs, il a vu que le poivre peut se conserver parce que l'ananas, à la date de récolte, l'avion, il y a panne d'avion. Au bout de 3 jours, votre production vous reste entre les mains et vous ne pouviez rien faire. Vous perdez de l'argent. Par contre, le poivre, on peut récolter le poivre, on peut le garder au magasin pendant 3 ans et le vendre, il garde la même vertu.
C'est plus sûr?
C'est plus sûr avec le poivre. Une culture, on l'admire quand elle peut se vendre. Mais pour le moment, on n'a pas de stock. Donc il est directement consommé.
Pourquoi vous n'avez pas de stock?
Parce que la demande est supérieure à l'offre, pour le moment. Et nous espérons que dans toutes les cuisines du pays, le poivre est sollicité.
Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce poivre que vous venez de collecter?
C'est le poivre de Pendja, parce que le nom poivre de Pendja vient de la terre où nous la cultivons.
Elle est comment, cette terre?
Cette terre, elle est semi-volcanique. Il y a les larves volcaniques du mont Cameroun qui se sont déversées dans la région et ont allégé le sol, ce qui fait que le sol est très meuble, il est moins argileux, il est moins sablonneux. Et c'est un mélange de terre vraiment utile pour la culture du poivre. Et ça lui apporte donc des éléments particuliers qui donnent sa variété, sa qualité.
Et quelle est cette qualité particulière?
C'est les arômes, c'est les essences intérieures. Il est plus claquant, il est plus piquant et il est plus aromatisé.
Donc c'est combien le prix au kilo du poivre en ce moment, du poivre de Pendja?
Au Cameroun, entre 10 000 et 12 000. En 3 ans, le prix a presque doublé. Il y a 3 ans, le poivre était à 6 000.
Et alors, comment on explique ça, que le prix a doublé en 3 ans?
Depuis qu'on a commencé à chercher le label du poivre de Pendja, sa qualité de poivre, ça a permis qu'on nous donne un label, ça veut dire qu'on nous donne un nom qui permet de vendre dans ce marché à ce poivre à l'extérieur.
Ce label, on l'appelle indication géographique protégée.
Indication géographique protégée.
Parce que ce poivre de Pendja, il correspond à une zone...
Une zone déterminée. Il y a Manga, il y a Mambo, il y a Njombe, il y a Pendja, il y a Loum, et puis il y a Manjo. C'est la zone indiquée.
Et pourquoi c'est important de donner un label à ce poivre?
C'est pour distinguer la qualité, parce que le poivre vient de toutes les provenances. Parce que nous avons un cahier de charges qu'il faut respecter. Ce cahier de charge permet que d'une plantation à l'autre, les gens du groupement produisent la même qualité.
Et donc en fait, là, ça ressemble à quoi cette plantation? Ça monte jusqu'à environ 5 mètres au-dessus
du
sol?
Oui, 4-5 mètres. Il y a le tuteur sur lequel on conduit le poivrier. Le poivrier lui-même, c'est une liane qui prend le temps de s'enrouler. Ce tuteur aussi, c'est un arbre spécial. Le plus souvent, on utilise l'érythrine.
L'érythrine.
L'érythrine, oui. Il résiste. Il a une seule racine pivotante qui peut aller à 2 mètres du sol chercher de l'eau. Donc, il ne meurt pas. C'est pour ça que les anglophones l'appellent Nevada stick.
Never die stick.
Nevada stick. L'arbre qui ne meurt pas. Il est spécial pour faire la culture du poivre.
Mais d'ailleurs, le sol est bien sec là. Il fait sec en ce moment.
Actuellement, il fait trop sec. Il fait trop sec. Les poivriers en souffrent. Ça, c'était un problème. Depuis 2-3 ans, 4 ans, on a ces problèmes de sécheresse.
Et est-ce que vous utilisez des produits?
Des engrais.
Des pesticides?
Peu de pesticides.
Est-ce que le cahier des charges dit quelque chose pour les produits?
Il précise les moments de traitement des insecticides et fongicides. Les insecticides de contact qu'il faut traiter 3 mois avant la période de récolte. Vous voyez qu'ils ont d'abord fait des ravages.
Ah oui, ça se voit sur les feuilles là.
Ils ont fait des ravages.
Elles sont toutes mangées et blanchies.
On a traité, ils sont morts. Mais on donne un écart entre 2-3 mois avant le début des récoltes. Tout ça, ça rentre dans le cahier de charge.
Michel, c'est la première fois que je te vois immerger.
J'aime bien être dans les plantations de poivre.
Je suis Michel Gonomi, chargé du programme des indications géographiques à l'OAPI.
L'OAPI, c'est
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
Qui conduit la mise en place de ces indications géographiques protégées, qui sont comme des appellations d'origine. Et ce label, pour l'instant, officiellement, il concerne 3 produits.
Poivre de Pendja et miel blanc de cou, c'est les produits du Cameroun. Le café Ziama Macenta, c'est un produit de la Guinée-Conakry.
Leur qualité est liée à un terroir, un territoire.
Un terroir, c'est ça, au terroir d'origine.
Et pour qu'un produit puisse prétendre au label, il faut que ces communautés se regroupent en association ou en coopérative ou en regroupement, c'est ça?
Effectivement, oui. La particularité des indications géographiques par rapport aux autres systèmes de propriété intellectuelle, c'est que c'est une propriété collective. Ça fait qu'une des conditions préalables, c'est d'identifier les producteurs et de les organiser en association.
Thank you. Je suis Itongue Gaspard.
Donc vous représentez le...
Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural dans l'arrondissement de Ndjombe-Pendja. Tout le processus de l'indication géographique, c'est une question de traçabilité du champ jusqu'au consommateur. Voilà, ce produit, on sait d'où il vient, qui en est le producteur, le pépiniériste, le distributeur. Donc le processus de l'IG conduit à l'identification de tous ces maillons de la chaîne qui concourent à la fin à produire un produit de bonne qualité qui sera apprécié tant au niveau local qu'au niveau international, au niveau extérieur.
Pour l'instant, c'est surtout consommé au Cameroun, le poivre blanc de Pendja?
80%.
80%, c'est beaucoup.
Oui, oui. Beaucoup de ce que nous appelons les distributeurs.
André Takougoum, planteur de poivre.
Ils viennent, ils sont nombreux, de Douala, Yaoundé, dans tout le Cameroun. Ils viennent dans la région chercher du poivre pour aller détailler sur le marché local. Consommer sur place, ce n'est pas tellement vrai. Parce que les quantités qui vont au Gabon, en Centrafrique, en Guinée, nous ne pouvions pas les maîtriser, on ne pouvait pas les déterminer. Le grossiste achète. Et sur le marché, ils vont à qui ils veulent. On vient de démarrer aussi des petits clients d'exportation qui en sollicitent. Mais il n'y a pas encore de quantité.
Vous avez un statut de producteur?
Oui, oui. Je suis chef de production ici, mais j'ai ma petite plantation. J'ai 2 hectares.
Donc vous êtes aussi producteur indépendant?
Je suis aussi producteur indépendant. Je fais du poivre parce que j'ai vu que le poivre est plus rentable.
Vous gagnez combien d'argent en plus avec votre plantation personnelle?
Pour le moment, je peux arriver à faire 1 tonne de poivre, ce qui peut me rapporter facilement 10 millions de francs.
10 millions de francs CFA par an avec vos 2 hectares.
Avec mes 2 hectares.
Mais alors, vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
J'ai 4 enfants dans les universités. C'est des charges que je paye. Et si je produis 1 tonne de poivre, ça fait 10 millions, ça leur couvre, c'est tout.
L'argent que vous gagnez avec le poivre,
ça couvre au moins les études des enfants.
Les études supérieures de vos enfants.
Oui.
Vous voyez, il y en a qui ont beaucoup crevé là. Il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte lorsqu'on veut manipuler les plants, les boutures.
C'est fragile.
Très, très fragile. Il faut qu'on vienne chaque fois vérifier, enlever des petites feuilles qui ne sont pas très bien, qui nuisent à l'évolution de la plante. Je suis Sop Jean-Marie, secrétaire général du groupement représentatif IG Poivre de Pendja.
Là, on est dans la pépinière.
Oui, dans la pépinière, vous voyez, la pépinière, lui, ça, c'est des plants qui sont mis en jumeaux. Hein. On peut avoir un qui décède et l'autre va vivre. Ça, on réduit ainsi le risque, tout simplement. Vous voyez, on met 2 plants par pot et chaque pot dans un sachet. Le cycle de vie, minimum 6 mois.
Le cycle de vie des boutures.
Des boutures, pour pouvoir avoir un plant adapté à l'environnement actuel et prêt à être planté, à transplanter dans les champs.
Et après, il faut attendre combien de temps pour un début de production? Alors, de poivre?
Régulièrement, c'est 3 années. 3 années pour pouvoir commencer à récolter les premiers grains. Voilà.
On est rentré à l'intérieur d'une pépinière.
Avec qui nous avons travaillé depuis 5 ans. Pour mettre sur pied des plans améliorés pour les producteurs qui en ont besoin.
Emmanuel Zenovo.
Si les boutures ne viennent pas d'une plantation qui est dans l'aire géographique délimitée, on risque à la fin de ne pas avoir le poivre de Pendja. Donc ils auront des codes de traçabilité.
Parce que ce poivre de Pendja, il est d'une qualité telle que ça favorise les cas de fraude, de vol, d'usurpation?
Vous touchez là le cœur du problème de notre filière. Il y aura un système de contrôle strict pour la vérification du respect des exigences du cahier de charge. La première chose, c'est que chaque opérateur doit avoir un document, un registre ou un cahier. Nous appelons ça cahier de pépinière. Quand est-ce que vous avez fait le repiquage des boutures dans les plants? Quand est-ce que vous avez fait le traitement? S'il a fait un traitement au niveau de sa pépinière, le producteur doit avoir un cahier de culture. Il faut qu'il puisse répondre. J'ai acquis les plants de pépinière telle année, telle parcelle à 2 ans, pour dire 2 ans, il faut qu'on voit dans un document qu'il a fait le planting telle ou telle année. Il faut qu'il nous dise combien d'épandage d'engrais il fait. Il y a un délai que vous devez respecter avant de récolter. Tout ça doit être consigné dans un document que le contrôleur doit vérifier. Donc voilà, le cahier seul ne suffit pas, mais c'est déjà un élément de traçabilité qui permet au producteur de surveiller son travail et qui aide le contrôleur à savoir si le producteur respecte le cahier des charges.
Et justement, qui est le contrôleur dans ces cas-là? Qui effectue les contrôles parmi les pépiniéristes, producteurs, distributeurs?
Les exigences du label IGP voudraient que le contrôleur soit neutre. Du coup, il faut penser à la rémunération et pour l'instant, nos capacités financières, nos ressources ne nous permettent pas encore de le faire. C'est dans le cadre d'un projet. Mais au niveau interne, il y a quand même des contrôleurs par bassin de production avec qui je travaille. L'association des distributeurs a également des contrôleurs qui sont formés pour vérifier les types d'emballage. Ils ne doivent pas prendre des sacs de pesticides pour mettre le poivre. Ça va détruire tout le travail que nous avons fait depuis la pépinière. Le lieu de stockage, tout ça est vérifié au niveau interne. Imaginez que le seul fait psychologique pour le consommateur de savoir que le produit poivre de Pénia est labellisé a fait que le prix passe du simple au quadruple en 3-4 ans. Si demain nous apposons ce signe distinctif, le logo, sur les emballages, le produit aura encore plus de valeur aux yeux du consommateur et apportera plus de revenus au producteur. Donc c'est dans l'intérêt du producteur de respecter le cahier des charges.
Ah. Allô, yawa, allô Sauri. Allez, Sungula. Yawa, allô, la sabana, dokai. Allô, Sungula. Yawa, allô, la sabana,
dokai.
Reportage de Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron. Aurélie Amim-Richard, je rappelle que vous êtes chargée de projet indication géographique à l'Agence française de développement. Alors on comprend bien à travers ce reportage qu'il y a un processus très strict pour obtenir l'indication géographique. Alors on va pas rentrer dans tous les détails techniques comme vous le faites certainement avec les producteurs que vous accompagnez, mais disons pour nos auditeurs, en gros, comment ça se passe? Quelles sont les différentes phases?
Alors, le préalable, c'est déjà d'avoir un produit dont on puisse démontrer le lien au terroir et un produit d'une qualité spécifique avec un potentiel sur les marchés et dont le lien avec son origine géographique, son terroir, puisse être démontré.
Est-ce qu'il y a une histoire d'ancienneté? Est-ce qu'il faut produire depuis plusieurs dizaines d'années?
Très souvent, ça rentre en compte dans cette démonstration puisque au-delà du terroir, donc de la considération géographique, physico-chimique, etc. Il y a aussi un savoir-faire traditionnel qui est associé. Et donc, l'action de l'homme sur justement cette culture qui est à démontrer.
Alors donc, une fois qu'on... Par exemple, je suis auditeur de RFI, là, j'entends ça, je me dis, ben moi, je produis avec les gens qui habitent autour de chez moi un produit particulier qui a tous les critères dont vous venez de parler. Quelle démarche je dois faire pour essayer d'obtenir ce label?
Alors, c'est avant tout une démarche volontaire et collective. Ces deux mots sont importants. Volontaire, puisque c'est un groupement de producteurs qui se lance dans la démarche de manière volontaire. Et collective, puisque, comme je le disais, c'est un droit de propriété intellectuelle qui appartient à un groupe. Donc, les producteurs doivent s'organiser en association de producteurs. On le voit, ça part souvent d'un noyau de producteurs très motivés. Petit à petit, la démarche s'étend et fait rentrer également d'autres acteurs de la filière. C'est important d'avoir les pépiniéristes, les distributeurs qui soient aussi associés à cette démarche pour s'assurer que la qualité est maîtrisée tout au long de la chaîne de valeur.
Donc, on crée ce groupement. Après, on fait quoi? On dépose un dossier?
Alors, le préalable, c'est cette démarche d'amélioration de la qualité. Puisque avant d'élaborer un cahier des charges de cette indication géographique, il faut s'assurer que la qualité du produit qui est attendu par le consommateur est bien au rendez-vous. Donc, il y a souvent une phase qui est assez longue, qui peut durer un an, deux ans, plusieurs années, vraiment d'amélioration de la qualité de la production.
Il y a un appui pour ça?
Il y a un appui pour ça. Donc, dans le cadre des projets que l'AFD finance, des experts sont mobilisés au quotidien auprès des associations de producteurs pour travailler sur cette qualité tout au long de la chaîne de valeur. Et ça demande énormément d'énergie en termes de sensibilisation, de formation des acteurs, donc les pépiniéristes, les producteurs, les distributeurs. Ça, c'est la deuxième phase. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur la qualité attendue du produit, le groupement de producteurs élabore un cahier des charges. Donc ce cahier des charges doit contenir la qualité attendue du produit, les modes de production, le terroir également qui est concerné. Une fois que ce cahier des charges est élaboré, celui-ci est déposé par le groupement de producteurs auprès d'une autorité publique, donc l'État, pour faire une demande d'enregistrement sous forme d'indication géographique. Donc là, c'est l'État qui va analyser ce cahier des charges, vérifier qu'il remplit bien les conditions et, à terme, fournir le titre de propriété intellectuelle, donc l'indication géographique.
Encore faut-il que son pays ait adhéré à l'organisation de propriété intellectuelle africaine, parce qu'il faut qu'il y ait un monsieur indication géographique dans le pays.
C'est ça. Alors, au niveau mondial, les indications géographiques sont reconnues au travers d'un accord qui est signé par les pays de l'OMC, qui s'appelle l'accord ADPIC, qui définit les indications géographiques au niveau mondial et charge à chaque pays ou groupe de pays de le retranscrire dans sa réglementation nationale ou dans une réglementation régionale. C'est le cas au sein de l'Union européenne et c'est le cas au sein des pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc ce sont 17 pays membres en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, plus les Comores, qui aujourd'hui adhèrent tous ensemble à cette OAPI, ce qui leur permet d'avoir une réglementation commune sur les IG.
Alors on comprend bien aussi à travers ce reportage qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la préservation de l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait ces produits, leur qualité dépend des écosystèmes qui les entourent.
Oui, et c'est tout à fait singulier dans le cas du miel d'Oku, puisque on voit que la production du miel, et donc la source de revenus des producteurs, dépend de l'écosystème qui est associé. Et de nombreuses initiatives aujourd'hui en Afrique, en Asie du Sud-Est, cherchent à démontrer l'intérêt des IG pour la valorisation économique des produits naturels. Et donc de démontrer ce lien entre valorisation économique d'un produit et développement de pratiques favorables à la préservation des écosystèmes. Ça, c'est une part du lien entre les indications géographiques et la question environnementale. Donc ce lien est direct dans le cas de produits naturels, produits issus directement des écosystèmes. Dans le cas de produits agricoles, ce lien est moins direct puisque les producteurs décident de ce qu'ils inscrivent dans les cahiers des charges. Donc ça peut aller très loin dans la préservation de l'environnement ou dans des pratiques, on va dire, environnementales positives. Donc ça peut aller jusqu'au bio.
En revanche,
ça n'est pas une obligation.
Alors après, c'est difficile de faire reconnaître son label, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Là aussi, il y a un déséquilibre nord-sud quand même.
À partir du moment où la réglementation existe, théoriquement, on peut faire reconnaître son indication géographique.
Mais par exemple, si on est un groupe de producteurs en Afrique et qu'on a le label qui est décerné par cette organisation de la propriété intellectuelle africaine, ce label est reconnu du coup dans combien de pays ?
Alors à ce stade, ce label n'est reconnu que dans les 17 pays membres. Ce qui veut dire que si un groupement de producteurs souhaite également faire reconnaître son label ailleurs, c'est le cas par exemple du poivre de Penja qui est vendu en France et dans l'Union européenne, il va probablement y avoir une volonté de ce groupement de producteurs de faire reconnaître l'indication géographique également dans le marché européen. Et aujourd'hui, charge à eux de déposer une demande directement auprès de l'Union européenne. Mais ce système va évoluer puisque un accord international au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a évolué en 2015 pour qu'une demande déposée dans l'un des pays membres de cet accord, au nombre de 26, puisse être automatiquement reconnue dans les autres pays, dont l'Union européenne.
Alors ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Voilà. Le poivre de Kampote, sur lequel nous avions fait un reportage aussi dans C'est pas du vent, qui lui est au Cambodge, est reconnu au sein de l'Union européenne depuis février 2016. Alors vous avez accompagné avec l'AFD des producteurs au Cameroun, en Guinée, et vous allez en accompagner dans d'autres pays ?
Oui, avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, donc nous sommes en train de développer un nouveau projet avec eux une seconde phase pour essayer d'étendre la démarche et également de former un réseau d'experts au sein des pays membres de l'OAPI pour permettre d'accompagner de nouveaux groupements de producteurs et qu'on ait plus d'indications géographiques qui puissent être reconnues au sein de ces pays.
Alors dans quel pays en particulier ?
Alors, nous avons à ce stade ciblé 4 pays prioritaires qui sont très dynamiques sur le sujet, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin et également le Cameroun et la Guinée qui ont pu faire reconnaître donc les premières IG africaines. Mais il n'est pas exclu que de nouveaux pays puissent être accompagnés par la suite.
Et où est-ce qu'on s'adresse si on a envie justement d'avoir accès à cette démarche, d'en savoir plus?
Alors, dans les pays, chaque pays qui va être accompagné au travers du projet bénéficie d'un comité national IG. Donc, c'est un comité interministériel qui est présidé soit par le ministère de l'Agriculture, soit par un organisme en charge de la propriété intellectuelle, ça dépend des pays, avec un point focal qui est désigné. Donc, c'est vraiment ce point focal dans chacun des pays qui est en charge de développer ce sujet-là.
Merci beaucoup Aurélie Amim-Richard pour toutes ces précisions. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. Pour réagir ou poser des questions, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag cestpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure. Carrefour de l'Europe.